5G, une révolution inquiétante avec Sophie Pelletier.
Je vous propose qu'on démarre. Donc, je voulais déjà remercier l'organisation du Salon Prime Vert de m'avoir invité à vous parler de la 5G. Et puis également notre correspondant donc local sur Lyon, Pierre Vincent, qui est parmi nous et qui a organisé le stand de documentation. Vous trouverez un certain nombre de matériel qui pourra aussi compléter ce que je vais pouvoir vous dire cet après-midi. Donc je vais faire une grande intro, on va dire, une présentation un petit peu générale. Peut-être ça va durer, je pense, une demi-heure. Et puis après, je pense que le mieux, c'est de laisser la place aux échanges et puis aux questions. Donc on a à peu près jusqu'à 14 heures pour discuter de tout cela. Donc déjà, pour vous présenter l'association, donc PrIARTEM, c'est la première association qui s'est créée en France sur la problématique ondes, santé et environnement, donc en 2000. Donc à l'époque, c'était les premières implantations d'antennes de téléphonie mobile. À l'époque, c'était un peu le Far West, hein, c'était tout nouveau, il n'y avait aucune réglementation. Et donc, quelqu'un d'un petit peu connu a vu un jour débarquer au fond de son grand jardin un hélicoptère avec une antenne au bout pour venir s'installer. Et il a été très choqué et avec un certain nombre de personnes qu'il connaissait, ils ont décidé de créer cette association pour essayer de... que la problématique de santé et d'environnement qui était liée à cette nouvelle technologie se développe, hein, soit prise en compte. Alors on est presque 20 ans plus tard. On ne peut pas dire que ça n'a pas progressé, ça serait complètement faux. Et déjà dans les consciences, aujourd'hui, le dossier n'est plus du tout le même qu'au départ. Hein. Au départ, on nous regardait de manière un peu bizarre. Alors, je résume un peu l'historique aussi. En 2008, s'est créé également un collectif de personnes qui étaient tombées malades à cause des ondes, hein, donc les personnes électrosensibles, qui avaient créé le collectif des électrosensibles de France, qui s'est rapproché progressivement de l'association PrIARTEM jusqu'à se rejoindre complètement en 2014. Et PrIARTEM, aujourd'hui, embrasse les différentes thématiques. Donc que ça soit santé, environnement, problématiques d'urbanisme et problématiques de santé et d'associations de malades, hein, puisque nous sommes maintenant agréés protection de l'environnement et agréés au titre de la santé, hein, pour la partie plus liée à la problématique sanitaire. Et donc, depuis 2000, on voit la 2G, la 3G, la 4G qui s'implantent. Alors, des petites réactions quand même politiques. Hein. En 2015, on doit quand même noter la loi dite loi Abeille, hein, du nom de Madame Laurence Abeille, députée, qui a œuvré pour qu'une loi qui essaye de prôner la sobriété électromagnétique soit prise en France. Donc ça, c'était en début 2015. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, hein, je vous rassure. Hein. C'est un chemin difficile. Et depuis donc un certain nombre d'années, on entendait comme ça un petit peu à bruit planer cette problématique de 5G, sans qu'on sache exactement ni quand ni comment ça allait nous tomber sur la tête. Et donc là, les choses se sont vraiment accélérées depuis mi-2018. Puisque le gouvernement a lancé une feuille de route à l'été 2018 et l'autorité de régulation des télécommunications, qui s'appelle l'ARCEP, a lancé ce qu'ils appellent un plan de bataille. Donc je vous laisse apprécier le vocable tout à fait guerrier. Et un certain nombre de textes, de procédures se sont déroulés, mais en fait, à aucun moment... À part cet été où quand même il y a eu un petit peu d'émotion liée au fait que certains se sont aperçus qu'on allait déployer du matériel chinois et que peut-être ça pouvait évoquer des problématiques de sécurité, d'espionnage, etc. Donc les députés ont eu à connaître une loi, donc cet été dite la loi Huawei, du nom du fournisseur d'antennes et de matériel de smartphone chinois. Mais à aucun moment il y a eu de loi ou de choses où la représentation nationale a pu acter le fait que la France allait s'engager dans cette voie-là. Et donc c'est par le biais, on va dire, de procédures, alors plus ou moins obscures, plus ou moins non identifié au sens où on ne sait pas trop comment, dans quel sens vont se faire les choses, ni trop forcément à quel moment et à quel moment on va pouvoir vraiment agir, qu'on voit ce rouleau compresseur de la 5G arriver progressivement en France. Et donc là, en 2019, on a eu vraiment une très très forte accélération des choses, puisqu'on a commencé à avoir des informations un petit peu plus précises sur à quelle sauce on allait être mis avec la 5G, puisque l'Agence nationale des fréquences, donc qui est un peu le gendarme des ondes en France, qui est l'agence d'État qui donne les autorisations pour que les opérateurs puissent exploiter les fréquences, hein, puisque le spectre électromagnétique, en fait, c'est un domaine public. C'est un petit peu comme le littoral, si vous voulez. Ça appartient à tout le monde, théoriquement. Et pour pouvoir l'exploiter, du moins dans certaines conditions, on doit avoir des autorisations. Et donc, c'est cette Agence nationale des fréquences, donc ANFR, j'en reparlais à plusieurs reprises, qui donne ces autorisations. Et donc, à l'automne 2019, donc tout ça, moi j'ai l'impression que ça fait 10 000 ans parce que c'est tellement un rouleau compresseur, on est tout le temps dans l'actualité, on a l'impression que c'est très très loin, mais en fait non, c'est il y a quoi, à peine 6 mois, on a eu 3 documents techniques émanant de cette agence qui visaient à dire comment cette agence qui vérifie, qui mesure, hein, qui vérifie que l'exposition aux ondes dans lequel nous baignons tous correspond bien à la réglementation, c'est-à-dire qu'on est en dessous des normes. Alors ça, on pourra y revenir. Hein, la problématique des normes, c'est encore un autre volet. A commencé à dire comment eux pensaient pouvoir mesurer ces expositions-là, parce que c'est, on va en parler, une nouvelle façon de communiquer. C'est une technologie qui est quand même assez nouvelle dans la téléphonie et qui pose des questions vraiment techniques très pointues et pas encore vraiment résolues pour savoir qu'est-ce qu'une exposition. Quand on va baigner dans la 5G, à quoi on va vraiment être exposé? Aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment convaincu, on va dire, de la façon dont ça se présente. Et à partir de là, on a tiré la sonnette d'alarme. On a pu rapidement travailler avec d'autres associations partenaires, notamment notre partenaire un petit peu historique qui s'appelle Agir pour l'environnement, que vous retrouvez sur le salon, hein, qui tient un stand également. Et puis avec d'autres associations qui participent avec nous aux différents comités de dialogue sur toutes ces questions-là. On a donc début octobre lancé un premier appel à moratoire pour dire stop, faut réfléchir. Là vraiment, ça pose des questions nouvelles. On est en train de déployer quelque chose. C'est un vrai rouleau compresseur. On y va à toute berzingue et dès qu'on commence à poser des questions un petit peu pointues, on s'aperçoit qu'on n'a pas les réponses. Et là, c'est juste pas possible. Et à partir de là, on va dire que la bataille de la 5G s'est engagée et que tout début 2020, là, on a eu un nouvel épisode une bataille, on va dire, où on a vraiment, en tant qu'association, pu marquer des points, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Je voudrais déjà vous dire un petit peu la 5G, techniquement, qu'est-ce que c'est ? On en parle beaucoup, on voit un peu de publicitaire. Moi, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas la télé. Mais j'imagine que sur les écrans de cinéma et à la télévision, dans les pages de magazines que je peux voir, on voit beaucoup apparaître de publicité sur cette nouvelle technologie. Alors, ces promoteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Avec la 5G, on va pouvoir faire un tas de trucs, vraiment, mais on se demande bien comment on a pu s'en passer jusque-là. Déjà, au niveau des débits, on nous annonce des débits multipliés au moins par 10. On nous annonce aussi des temps de latence très réduits, pour pouvoir effectivement assigner des objets pour lesquels on a besoin d'une réaction très rapide. Donc ça, essentiellement, ça va servir beaucoup aux gens qui jouent, hein, et également pour les véhicules autonomes, puisque ben, le véhicule, hein, pour éviter d'avoir un accident, il a besoin d'avoir de l'information et de réagir très vite à la suite de cette information. Et puis également dans l'industrie, hein, puisqu'il y a un certain nombre d'industriels qui vont se doter de cette, alors localement on va dire, de cette technologie pour pouvoir manœuvrer des robots, lancer des process, etc. Et le troisième volet de cette technologie, c'est aussi et surtout, je pense, la possibilité d'assigner énormément d'objets, de terminaux. Parce que la 5G, c'est la porte d'entrée de ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire que dans le monde qu'on nous promet, vous verrez si c'est un paradis ou quelque chose qui risque d'être un petit peu plus dystopique. On nous promet effectivement des quantités astronomiques de capteurs et d'objets communicants. Alors ça va de des objets ménagers, hein, les frigos, que sais-je. Enfin, il y a un tas de startups qui ont un tas d'idées là-dessus. On imagine bien que ça va pouvoir aussi marcher peut-être certainement en lien avec les fameux compteurs qui sont également communicants. Des capteurs dont dans les smart cities, hein, donc réglés avec un tas de capteurs pour savoir s'il y a de la place pour se stationner, pour communiquer la qualité de l'air, pour savoir si vous êtes passé, s'il faut allumer la lumière. Enfin, voilà, une ville merveilleuse où un tas de process va se régler de manière automatique avec beaucoup de capteurs. Donc là, la possibilité de la 5G pour ces promoteurs, c'est effectivement de pouvoir assigner tous ces objets et de les faire communiquer entre eux. Alors ça pose un certain nombre de questions, hein, au-delà de la problématique onde, c'est que on est dans un monde où l'humain finalement baigne dans un espèce de process qui tourne un peu en fond mais qui maîtrise plus vraiment parce que ces capteurs, déjà, ils vont être répartis un peu partout. On ne saura pas forcément qu'il y en a. Moi, j'ai des exemples de correspondants qui me disent j'ai été chez une dame, j'ai été obligée d'ouvrir sa télévision pour enlever la carte Wi-Fi qui est à l'intérieur de sa télévision parce que la télévision, elle communique en Wi-Fi et il n'y a pas de bouton, on ne peut pas l'éteindre. Donc voilà, c'est des choses qui vont marcher à l'insu des utilisateurs, avec des process qui, derrière, vont faire des choses et sur lesquelles on n'a pas forcément prise à premier abord. Donc ça, c'est, disons, un plus premier volet plus, disons, philosophique et plus en lien avec, disons, tout ce qui est liberté individuelle et comment maîtrise de ce qui se passe dans l'espace public. C'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'on a pu soulever à l'occasion de notre demande de moratoire. Donc voilà un petit peu la 5G. Pourquoi, à l'origine, ça se lançait. Alors quand on regarde un petit peu plus près les usages quand même, le gros quand même de l'usage, c'est effectivement les débits et la grosseur des tuyaux qu'on met pour pouvoir communiquer. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec l'essor de toutes ces technologies, ce qui se passe, c'est qu'on a à peu près les trois quarts du débit de données aujourd'hui. C'est pas du tout quand vous appelez votre mari ou etc. pour dire que vous avez pris le pain. Non, c'est pas du tout ça. C'est la vidéo en ligne qui prend énormément de débit. Donc en gros, de l'ordre de trois quarts à peu près du débit aujourd'hui. Et c'est appelé à se développer grandement parce que derrière, c'est tout un marché, hein. C'est du contenu, c'est de la publicité. C'est l'internet qu'on fera de manière mobile, en mouvement, mais aussi mobile fixe, c'est-à-dire que dans certains endroits, plutôt que de s'enquiquiner à passer de la fibre, par exemple, les aménageurs ou les opérateurs vont se dire, on va plutôt le faire en hertzien. Et les gens, ils auront leur box, ça communique en 4G ou en 5G, et ils pourront avoir leur flux Internet par le hertzien plutôt que par câble. Et donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment la grosse partie de l'iceberg du développement, on va dire, de la 5G, mais de la 5G dans son contexte de l'explosion du numérique dans nos vies, et notamment du streaming, des jeux et de la vidéo. Et donc, nous, quand on a posé effectivement notre demande de moratoire, on a posé cette question de l'utilité sociale de ces usages-là. Parce que c'est très bien, c'est formidable. Enfin, si ça n'a pas d'impact autre, mais si ça a un impact autre, il faut quand même se poser la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle et mettre en balance la proportionnalité de ce qu'on est en train de faire, de déployer d'un point de vue technologique, et puis des impacts et sanitaires et environnementaux. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Pour rentrer dans un petit peu de technique, je ne veux pas trop m'apesantir, mais je pense que peut-être un certain nombre souhaitent savoir un peu qu'est-ce que c'est que cette 5G, parce que c'est plusieurs choses à la fois. Ça va être de la téléphonie mobile, un peu à l'ancienne, sur un certain nombre de fréquences. Donc sur des fréquences, disons, un petit peu habituelles qui ont été nettoyées, on va dire, de leurs usages précédents, pour pouvoir être alloué aux antennes comme on les connaît aujourd'hui. Donc ça, il y a beaucoup d'antennes qui vont être dans les 700 MHz et les 1,5 GHz qui vont pouvoir fonctionner demain en 5G. Après, il y a deuxième bande qu'on appelle la mid-band, parce que c'est des fréquences un peu intermédiaires par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de la téléphonie mobile, aux alentours de 3,5 GHz. Et ça, c'est des fréquences nouvelles pour la téléphonie mobile qui ont dû, dont la fréquence, enfin, qui étaient utilisées par des usages, disons plus industriels ou militaires, qui ont été nettoyées et pour pouvoir être allouées aux opérateurs de téléphonie mobile. Et là, c'est là que se passe la fameuse bataille là qu'on vient de mener au mois de janvier et dont je reparlerai un petit peu après. Donc ça, c'est de la téléphonie mobile. Alors, ça va être de la téléphonie mobile, mais qui va être différente de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'antenne. Aujourd'hui, une antenne, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez la plupart du temps un mât avec trois cellules, voilà, qui répartissent en fait l'exposition sur un tiers de secteur, en fait. Et donc, quand quelqu'un a besoin de l'antenne, ou de toute façon, elles émettent une balise un petit peu en permanence, mais enfin, quand elle est appelée à communiquer, elle éclaire, on va dire, tout le secteur qu'elle dessert. Les antennes 5G, enfin du moins une grosse partie des antennes, des futures antennes 5G, ne fonctionnent plus de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle des antennes dites actives. Et c'est une technologie qui est issue de la technologie du radar des années 80, qui en fait focalise le faisceau d'onde en direction de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, avec ces antennes-là, est ciblé et suivi par le faisceau. Sachant que ce faisceau d'onde, en fait, balaye un petit peu tout le secteur, parce que s'il y a plusieurs utilisateurs, forcément, le faisceau va signer aller par là, par là. Hop. Et ça, ces faisceaux-là, en fait, vont scintiller, si vous voulez, à quelque chose de l'ordre de 1000 fois par seconde. Donc voilà, ça va être des petits rayons, et des petits rayons qui vont être beaucoup plus... Enfin, globalement, on nous dit la puissance, enfin, on sera moins exposé, parce que on sera exposé, soi-disant, moins longtemps et de manière ciblée. Donc si vous êtes à un endroit où il n'y a pas de données qui est appelée, vous ne serez soi-disant pas exposé, ou du moins, au moins par la balise. Mais si vous avez le malheur de vous trouver à côté, ou si vous êtes vous-même utilisateur, vous allez être souvent dans le rayon en fait qui communique, et avec un gain, donc une puissance beaucoup plus forte par rapport à ce qui est aujourd'hui. Donc c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire est-ce qu'on sera plus ou moins exposé. tout ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on sera exposé de manière différente de ce qu'on se connaît aujourd'hui. Donc c'est des outils de mesure et d'appréhension qui sont différents. Et on a quand même des indices qui nous disent que, de toute manière, l'exposition est appelée à augmenter d'une manière générale. De toute façon, avec l'essor de la téléphonie mobile, on voit bien que, globalement, l'exposition ne fait qu'augmenter. Alors que notre agence sanitaire nous recommande de diminuer les expositions. Tout ça, c'est depuis 2009. Depuis 2009, notre agence sanitaire recommande de diminuer les expositions. Elles ne font qu'augmenter. Et on a donc d'autres indices qui nous disent que ça va augmenter. On a notamment les opérateurs qui, dans les pays qui avaient des normes plus strictes qu'en France, donc je pense par exemple à certains cantons en Suisse, où la valeur limite d'exposition, donc en situation, disons, habituelle, est de 6 volts par mètre. Eh bien, les opérateurs, en perspective du déploiement de la 5G, ont demandé à remonter ces valeurs limites à au moins 14,5 volts par mètre. Donc déjà, on se dit que ça ne va pas baisser. Quand les opérateurs demandent à augmenter les normes, ce n'est pas très bon signe. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a un gros blocage en Suisse, hein, puisque les Suisses sont beaucoup mobilisés, parce que la Suisse a été un peu les premiers, les pionniers dans le continent européen à développer la 5G. Et aujourd'hui, il y a des moratoires dans certains cantons, canton de Vaud, canton de Genève, pardon, c'est dur à dire, qui ont dit, oula, stop, on est en train d'aller sur une pente, on demande à freiner et on essaye de voir ce qui va se passer. Donc voilà, on a cet indice-là. On a également un autre indice, c'est notre Agence nationale des fréquences qui a fait des projections, des scénarios de déploiement. Donc ils ont pris un quartier, donc le 14e arrondissement de Paris, ils ont fait tourner de la simulation pour voir si on développe la 4G et si on développe en plus la 5G, qu'est-ce que ça donne en termes d'exposition. Et là on voit très nettement le nombre de points dits atypiques, c'est-à-dire au-delà de ces fameux 6 volts par mètre, vont décupler avec la 4 et la 5G. Donc voilà, on sait aujourd'hui que les expositions aux ondes électromagnétiques avec le développement de la 5G, quand on vous dit ça va baisser, non, c'est pas vrai, ça va augmenter. Puisque, en plus, ça va avec les usages, c'est ce que je vous disais, on va donner des plus gros tuyaux, c'est comme si on construisait, comme il y a quatre opérateurs, c'est un petit peu, je prends l'image, c'est comme si on disait, on va construire quatre autoroutes parallèles, parce qu'il y a quatre opérateurs, donc il y a quatre réseaux. Et puis, on va vous doter de Formule 1. Mais la pollution qui va se dégager de tout ça, ça va dépendre de l'usager. Si l'usager il est raisonnable, il n'y aura pas beaucoup de pollution. Mais s'il n'est pas raisonnable, non, quand même, vous n'êtes pas très raisonnable. Hein, on vous donne tout ça et puis vous vous en servez. Forcément... il y aura une augmentation de l'exposition. Donc là, il y a un espèce de tour de passe-passe pour, disons, un peu culpabiliser les gens, alors qu'on va les doter d'un truc qui va coûter des milliards, en leur disant, mais surtout, vous en servez pas, parce que sinon, effectivement, ça pourrait augmenter. Donc, il y a un truc qui est absolument de l'ordre de l'enfumage, on va dire, je pense, qu'on peut qualifier ça comme ça. Et on peut d'autant plus dire que la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, des pays comme la Corée du Sud, où il y a effectivement ces technologies-là qui ont été implantées depuis assez longtemps, depuis plus longtemps que nous, du coup, on voit bien effectivement une augmentation de la consommation de data. Elle est tout à fait prévue. Il y a un certain nombre d'études comme Ericsson par exemple qui montrent très bien que on va avoir une augmentation des data et donc de l'exposition. Que vous dire d'autre? Ah oui, alors j'ai pas fini avec mes antennes parce que c'est pas fini. Donc on aura aussi une technologie qu'on nous annonce alors là plutôt d'ici 3-4 ans. Avec des antennes, alors avec des fréquences, alors là, qui pour le coup sont très très nouvelles dans la téléphonie mobile, c'est avec des fréquences, alors dites, je mets des guillemets, c'est usuel de les appeler comme ça, c'est, C'est, certains puristes n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais dites millimétriques. Et là, on tape dans des valeurs qui sont, en France, annoncées autour de 26 gigahertz, et avec des projections à monter à 41, 60, je ne sais plus, j'ai noté quelque part. Enfin voilà, des perspectives de monter en fréquence. Alors l'avantage pour les opérateurs de monter en fréquence, c'est que ça donne une possibilité de débit beaucoup plus important. Par contre, c'est des fréquences qui vont beaucoup moins loin. Donc, vous ne pourrez pas avoir les antennes comme on a aujourd'hui, le mât au-dessus du village, Carose, tout un secteur. Non, ça sera plutôt des, je mets des guillemets, petites antennes. Je mets vraiment des guillemets parce qu'au niveau de la puissance, ce n'est pas si petit que ça. Mais qui seront, par exemple, mis sur le mobilier urbain ou qui pourront avoir des répéteurs, par exemple, en interne, par exemple, dans les gares ou dans les aéroports ou... Par exemple, un palais des congrès, par exemple, comme ici, on pourrait très bien imaginer voilà, des petites antennes réparties un petit peu partout pour répéter le signal et assurer une couverture. Donc voilà, ça pose des questions parce que c'est des antennes qui, de ce fait-là, sont plus proches de nous. Et puis, c'est surtout aussi des fréquences qui sont beaucoup plus hautes en fréquence, qui n'ont pas les mêmes forcément les mêmes propriétés physiques. C'est des ondes qui pénètrent, d'après ce qu'on nous dit, moins dans l'organisme, et du coup, la puissance de l'émission se concentre au niveau de la couche superficielle, donc de la peau. Donc, c'est la peau qui va être plutôt l'organe cible de ces futures expositions aux antennes de fréquences dites millimétriques. C'est des fréquences qu'on utilise en thérapeutique. Voilà. Donc, on peut se douter qu'il y a des effets biologiques, même si on les connaît encore peu. Alors, sur la partie connaissance de toutes ces fréquences-là, aujourd'hui, on en sait vraiment très peu. On a eu l'Agence sanitaire française, donc l'ANSES, qui travaille depuis longtemps sur toutes ces questions-là, donc qui recommande depuis 2009 de réduire les expositions. Les ministères ont saisi l'ANSES début 2019, donc vous voyez le processus de se dire on va la faire remonter à bien avant, mais l'ANSES n'a été saisi que là au début de 2019 pour savoir si est-ce que ça serait dangereux, parce que là on a des associations qui nous embêtent, qui nous enquiquinent, ils nous demandent si c'est dangereux, donc vite dites-nous si c'est dangereux ou pas. L'ANSES a fait un premier travail dit préliminaire et vient de rendre son rapport donc là, en janvier 2020 pour en gros déjà faire tout le travail bibliographique de voir s'il y a de la donnée. Parce qu'eux, ils ne peuvent travailler que s'il y a de la donnée scientifique publiée sur les sujets qu'on leur demande d'évaluer. Et ben, ce n'est pas très brillant parce qu'en gros, ils nous disent on a très peu, voire pas d'études sur ces fréquences-là. Alors, on en a un petit peu sur des fréquences qui sont un petit peu, dans la même gamme. Si vous voulez, on a de la... Pour étudier le 26 giga, on a de la donnée sur du 40 giga. Est-ce que ça vous va ? Bon. Donc, aujourd'hui, il y a très peu, voire pas d'études sur ces fréquences-là. Et donc le rapport préliminaire de l'ANSES qui vise à cadrer le travail d'évaluation du risque sanitaire que ces experts, donc c'est des scientifiques que l'ANSES recrute, on va dire, pour leurs compétences, vont devoir cette année et ne rendront leur copie qu'en 2021 pour dire à partir des données qu'ils ont, ou qu'ils n'ont pas d'ailleurs, en l'occurrence, si ils évaluent qu'il y a un risque ou qu'il n'y a pas un risque pour la santé. Et dans les conclusions donc, de ce premier pré-rapport, on va dire, l'ANSES et ses experts se posent des questions. Donc justement de savoir s'ils vont pouvoir extrapoler la connaissance qu'on a sur des fréquences un petit peu à côté, est-ce qu'on va pouvoir les extrapoler à ça ? Enfin, les questions qui sont posées sont assez perturbantes parce qu'on se dit, en fait, on le savait, mais au moins ça éclate au grand jour. Aujourd'hui, on peut dire que ces fréquences-là, le déploiement est en train de se mener tambour battant et on n'a pas d'évaluation du risque sanitaire de cette opération-là. Donc on va, en gros, pour résumer, c'est très simple, jouer les cobayes, on déploie, et on saura peut-être dans un an, l'ANSES nous dira, très certainement, enfin voilà, qu'ils n'ont pas d'études scientifiques suffisantes pour pouvoir tirer de conclusions. Donc, en gros, on ne saura pas. Mais alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que depuis 20 ans, nous, qu'on suit ces questions-là, c'est qu'on a vu sur l'ensemble des radiofréquences, hein, toutes fréquences confondues, le niveau de preuve de problèmes sanitaires ne fait qu'augmenter. Alors déjà en 2011, l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, a classé les radiofréquences comme cancérogènes possibles. Donc en 2011. Et depuis, on a une accumulation de données très importantes, que ce soit chez l'animal, que ce soit en épidémiologie, que ce soit en test sur des tissus, enfin voilà, en études biologiques. On a un certain nombre d'études très très importantes qui nous montrent qu'aujourd'hui, et on a des scientifiques de renommée internationale qui nous disent aujourd'hui, il faudrait réévaluer à cancérogène probable, voire avéré. Donc on a ce point très important sur le fait que les ondes aujourd'hui nous posent déjà des graves questions de santé. Et que l'évaluation devrait accélérer sur ce sujet. Alors, l'agence sanitaire vient de réouvrir, là, en début d'année, cette question de la cancérogénicité. Mais on saura, ils prévoient de donner leurs conclusions en 2022. Donc là, c'est pareil, c'est tout. OK, donc on fait encore, et on saura après s'il y a un problème ou pas. Sur la dangerosité des ondes, une deuxième chose importante que je voulais vous dire, c'est qu'on souvent on entend « Ah oui, il n'y a pas de consensus scientifique, la li, la 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 ». Bon, alors aujourd'hui, il y a deux consensus scientifiques quand même qui se font au niveau international sur ces questions. Je crois qu'il y a un portable qui sonne. D'une part que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, ça c'est reconnu. Et deuxièmement, c'est que ces radiofréquences perturbent l'activité électrique de notre cerveau. C'est-à-dire qu'on le voit, c'est mesuré hein, par les électroencéphalogrammes. Il y a des expériences qui sont faites chez des sujets sains ou chez des sujets qui sont affectés d'électrosensibilité. On y reviendra peut-être un petit peu dans la discussion. On voit que lorsqu'on expose des personnes à ces ondes, on perturbe l'activité donc, des ondes cérébrales. Alors, la plupart du temps, les ondes de pendant le sommeil, mais pas uniquement. Donc voilà, ça. Et alors, le problème, c'est qu'on nous rétorque, oui, effectivement, c'est vrai, ok, il y a un consensus scientifique, mais ça n'occasionne pas de troubles de santé. C'est un effet biologique, mais ça ne serait pas un effet de santé. Alors, bon, nous, on n'a peut-être pas fait beaucoup d'études, mais enfin, on se dit, alors attendez, on a des ondes qui perturbent l'activité du cerveau. On a des études qui nous montrent aussi que des rats, quand ils ont le choix, ils vont aller plutôt dormir dans la cage qui n'est pas ou moins exposée que celle où il y a plus d'ondes, et qu'en plus, du coup, d'un point de vue physiologique, ils en retirent un certain nombre de bénéfices. Et on a des personnes qui y arrivent en disant « j'arrive plus à dormir chez moi parce que j'ai une antenne, j'ai la Wi-Fi du voisin, etc. Je suis devenue électrosensible », et on ne ferait pas le rapport entre les deux. Bon, voilà. Nous, on a un peu du mal à admettre ce discours-là et on insiste lourdement en disant, là, aujourd'hui, on en sait suffisamment, et même, on le disait déjà depuis bien longtemps, au moins depuis 2009, comme l'ANSES, pour dire, stop, il faut vraiment réduire les expositions et ne exposer que vraiment quand c'est indispensable. Et la question qu'on pose aujourd'hui au niveau de la 5G, c'est franchement, vu les usages qu'on va développer, est-ce qu'il y a une utilité sociale à tout ça ? Et est-ce que la technologie n'est pas surdimensionnée par rapport aux troubles, aux problèmes que ça pourrait occasionner ? Alors là, je vous ai parlé de la santé, mais on pourrait aussi évoquer des problèmes liés à l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis dans le débat public, notamment avec notre partenaire Agir pour l'environnement, qui est vraiment beaucoup plus généraliste que peut l'être Prière Thème, sur ces questions en lien avec l'énergie, avec aujourd'hui la crise climatique. On nous dit, et on peut le constater tous les jours, qu'on a des problématiques climatiques devant nous, un défi de l'humanité tout entière, à savoir comment on va pouvoir réduire nos gaz à effet de serre. Donc, on est face à des défis aujourd'hui. Enfin, voilà, nul ne peut décemment nier la crise climatique aujourd'hui. Nul ne peut non plus nier la crise biologique, hein, l'érosion de la biodiversité aujourd'hui. Et on va dépenser des milliards pour déployer une technologie dont, franchement, de plus en plus, on voit, hein, par voie de presse, hein, beaucoup de voix s'élèvent pour dire « Mais en fait, ça sert à quoi ? Est-ce que vraiment, enfin, c'est pas du tout en rapport avec les enjeux d'aujourd'hui ?» Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a posé tout de suite dans notre demande de moratoire au mois d'octobre et qui a pris vraiment on a eu, hein, des relais, enfin des personnalités qui se sont qui ont interpellé sur cette question-là. Pour vous dire un petit peu à quel niveau c'est monté aujourd'hui, on a Madame Le Quéré, qui est présidente du Haut Conseil pour le climat en France, qui dans une interview dans le journal Sud-Ouest, je crois, a parlé de la 5G en disant « Mais aujourd'hui, la 5G, il faut l'évaluer. Est-ce que c'est compatible avec la stratégie bas carbone ? Si ça ne l'est pas, il faut revoir. Il ne faut pas le faire, il faut revoir le truc. » Donc, voilà, ça, c'est une vraie question. On a 1000 scientifiques, je ne sais pas si vous avez vu ça, très récemment là dans Le Monde, qui ont appelé la société civile à la rébellion et à agir pour faire des actions de la société civile pour le climat. Ils ont explicitement visé la 5G en disant aujourd'hui, c'est irresponsable de continuer à promouvoir une telle technologie énergivore et superflue. Voilà, on a 1000 scientifiques qui signent une tribune où on parle de la 5G. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous on est ravis parce qu'on avait un petit peu l'impression de prêcher dans notre petit coin. On voit que des pans de la société, de gens qui ont des responsabilités dans la société civile ou dans les problématiques de climat, de transition énergétique, s'emparer de cette question-là parce qu'elle n'a jamais vraiment été débattue aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on a porté au niveau des ministères pour leur dire « Mais votre machin, là, nous, on demande un moratoire parce qu'en fait, il n'a pas été évalué ni pour la santé ni pour l'environnement. Donc, il faudrait peut-être le faire. » Et puis, il y a des lois qui vous demandent de le faire, en fait. On n'a pas été entendu. La ministre, donc, qui est en charge du lancement des enchères des fréquences pour les opérateurs, donc, a publié des textes en fin d'année, le 30 et le 31 décembre. Voilà, juste qu'on était un peu tous occupés à autre chose, pour lancer le processus de mise aux enchères. Donc, nos associations, on a tout de suite, rapidement, fait un recours auprès du Conseil d'État pour lui demander d'invalider ces textes-là sur l'argumentaire qu'il n'y avait pas eu d'évaluation préalable, ni sanitaire, ni environnementale, qu'il y avait manifestement des problématiques liées à l'environnement et à la santé, et que c'était pas que la procédure n'avait pas été faite comme il aurait fallu le faire. On a eu une audience, donc on a fait deux choses. On a fait un référé suspension pour que le juge se prononce sur l'urgence de dire oui ou non, je stoppe ce processus, parce qu'une fois qu'il est enclenché, en général, le Conseil d'État se prononce avec beaucoup de temps. Hein. Donc on a fait en parallèle une requête sur le fond pour lui demander d'invalider les textes de la ministre. Et donc, cette procédure, au fond, en général, prend beaucoup de temps. Hein. C'est, ça se compte en mois, voire en années. Et donc, cette demande d'urgence était faite pour parer, bah, puisque là, on nous annonce des mises aux enchères attribuées courant du printemps et des premières attributions et un lancement commercial à l'été de cette année. Hein. Voilà, c'est juillet 2020, les premières antennes 5G implantées. Et donc, on a une audience lundi, oui, c'est ça, ça passe tellement vite, très intéressante, ma foi, avec un juge du référé très intéressé qui a posé beaucoup de questions et qui a rendu finalement sa décision là, jeudi, avec un communiqué de presse sur le site du Conseil d'État, où il est dit que le Conseil d'État se prononcera avant l'été sur la procédure d'attribution des fréquences pour la 5G. En conséquence, le juge des référés rejette la demande de suspension dirigée contre cette procédure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le juge s'est engagé en fait, à faire cette procédure au fond très rapidement pour pouvoir dire avant le déploiement si, oui ou non, la procédure est légale ou pas. Et c'est pour ça qu'il a interjeté notre demande de référé en urgence. Donc, nous, on est assez contents parce que finalement, ça accélère le mouvement du côté du juge. Et on saura assez vite, voilà, on va pouvoir redévelopper des arguments pour essayer d'arrêter le déploiement de la 5G en France. Alors, je regarde un petit peu, je vous ai parlé de pas mal de choses. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire sur la 5G. On va laisser la place aux questions. Je voulais juste vous dire qu'en parallèle de ces actions qu'on fait au niveau national, au niveau judiciaire, on a lancé une pétition qui est en ligne sur le site 5g.fr. Vous pouvez la signer en ligne. Elle circule également pour ceux qui ne veulent pas aller sur Internet par voie de papier. Je crois qu'elle est à la sortie et puis elle circule peut-être dans la salle. Je vous ai vu, monsieur. Hein, on va faire passer le micro. Et puis également, donc, avec notre partenaire Agir pour l'environnement, on a lancé une campagne. Donc, je ne sais pas si on en a récupéré ou pas, finalement. Non, on les a pas. Sur le site, sur le stand d'Agir pour l'environnement qui est sur le salon, voilà, vous pouvez récupérer ce flyer. Et il y a des courriers à adresser au Premier ministre et à la ministre, justement, pour lui demander un moratoire sur la 5G. Voilà, je vous ai dit à peu près ce que je voulais vous dire de base, et puis on va peut-être passer aux questions et aux débats. Merci.
Oui, bonjour. Ce qu'on sait sur le Grand Lyon, c'est que les TCL ont fait changer tous les plafonds des abribus sur l'ensemble du Grand Lyon. Et ils l'ont fait complètement en douce. Et quand on posait la question aux ouvriers, c'était des ouvriers employés par l'entreprise Deco, ils nous disaient, on n'a pas le droit de vous le dire. C'est interdit de vous le dire. C'est que ça veut dire qu'il y a un danger s'ils nous disent ça, non? Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question?
Bonjour. Alors moi, je ne suis pas du tout sachant dans le domaine. Je suis venu pour apprendre. Et donc, en fait, j'aurais souhaité avoir quelques précisions sur le phénomène. Est-ce que c'est possible que ça soit... Je parle plus fort? Pardon. Est-ce que c'est possible que ça soit comme une intolérance ou une allergie? Est-ce qu'on le devient, tout simplement? Est-ce qu'on devient ou est-ce qu'on est comme ça? Je pense que ça peut être les deux, comme une allergie ou une intolérance. Et à défaut d'agir sur les antennes, en attendant, comment on peut traiter les symptômes? À part couper le téléphone, mais bon, on coupe le téléphone en arrivant à Lyon. Mais à Lyon, c'est pas la campagne, quoi. Donc en fait, le taux d'onde est monstrueux. Voilà. Merci.
Oui, bonjour Sophie Pelletier, bonjour à tout le monde. Guillaume Major, je suis secrétaire de l'association Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes qui travaillons en partenariat avec vous sur les questions de prévention des questions de l'impact sanitaire des champs électromagnétiques. Voilà, merci à monsieur pour son intervention sur la question des bus aussi, puisqu'effectivement les antennes vont être mises à tous les 100 mètres et vont effectivement augmenter l'effet sanitaire. Donc moi, ma question et ce qui nous intéresse particulièrement au niveau de ce RAS, c'est évidemment la mobilisation citoyenne, c'est comment diffuser le message que vous nous proposez aujourd'hui collectivement, et c'est formidable d'avoir ce temps de conférence. Il faut vraiment qu'on prévienne les plus jeunes sur la question du numérique, qui sont encore très très éloignés de ces questions-là, et effectivement qu'on agisse extrêmement rapidement pour contrebalancer cette technologie qui va nous impacter, comme vous nous le rappelez, effectivement au niveau des consommations énergétiques, puisqu'on est à 1% des augmentations énergétiques au niveau mondial. Donc il faut vraiment réduire, être sur une sobriété. Évidemment, je ne l'apprends à personne en rappelant ça, mais c'est une priorité effectivement pour prendre en question de ressources. Voilà, donc la mobilisation citoyenne, prévenir les jeunes et faire de la prévention pour agir collectivement sur ces questions-là. On demande dans les zones pour des personnes hyper électrosensibles d'avoir un laboratoire de recherche indépendant effectivement pour être plus réactif que les services de l'État qui ne vont pas dans le bon sens actuellement.
Merci. Je vais déjà prendre ces trois questions. Alors, sur les abribus, les deux questions se rejoignent un peu. Alors, sur la question des abribus, mais aussi sur comment agir. Hein. C'est un peu ça. La première chose, c'est d'être conscient du problème. Donc déjà, vous êtes là, c'est déjà le premier point. C'est de faire savoir, de se documenter, de faire le tri d'information, hein, parce que effectivement. Il y a un petit peu de tout. Il faut faire le tri de ce que disent les opérateurs parce qu'ils nous survendent certaines choses aussi. Et puis, déjà de s'informer et d'aller au bout de son rôle de citoyen. En ce moment, il y a des élections municipales, vous savez tous. Je pense que vous pouvez tout à fait interpeller et les candidats et la municipalité en place sur c'est quoi ce qui se passe sur les abribus de Lyon. Lyon est une des villes où il y a des expérimentations 5G à la fois sur, que je dise pas de bêtises, sur les antennes, les mid-bandes, là, les 3,5 gigas, et sur les 26 gigas. À la gare Lyon-Pardieu, par exemple. Et puis, dans la zone industrielle, à Saint-Priest. Ouais, merci, je sais. Donc voilà, en vous documentant, en demandant des informations, en demandant si l'expérimentation actuelle est suivie, est-ce qu'on peut participer, est-ce qu'on peut savoir, c'est se manifester dans la vie de la cité en fait, pour pas découvrir les choses, et puis tant qu'il n'y a pas d'opposition, tant qu'il n'y a pas de rapport de force, les choses se font, et puis après on se retrouve effectivement avec des abribus avec des antennes dessus, et puis on n'a plus trop son mot à dire. Alors je voulais juste vous signaler que ce soir, sur cette question de comment agir, on a un atelier à 18h30. Je ne sais pas où ça sera, ici ou... Dans le Dôme Onde, c'est les espaces causeries, hein, c'est ça. Donc on pourra revenir sur ces questions-là si vous le souhaitez. Alors sur la question de l'électrosensibilité... en fait, aujourd'hui, on sait assez peu de choses sur cette pathologie-là. On imagine bien que c'est un petit peu les deux, en fait. Manifestement, on n'est pas tous égaux devant l'exposition aux ondes. Et ce qu'on voit, il y a de la littérature qui nous le dit, il y a les expériences, les témoignages des personnes qu'on peut recueillir, où on voit qu'on n'est pas sensible tous aux mêmes fréquences, aux mêmes signaux. Certains vont pas avoir de problème, et puis d'autres, parfois même très brutalement, vont développer un genre d'intolérance. Nous, on parle de perte de tolérance, en fait, parce qu'on est tous, on baigne tous là-dedans. Et d'ailleurs, c'est reconnu. En gros, on nous dit on tolère, enfin c'est, on, l'organisme s'adapte, mais on voit bien que chez certaines personnes, bah, en fait, bah, y a un moment, non, manifestement, on n'adapte plus du tout et ça va très très mal. Ça peut même aller très vite et aller très bas. Et la façon d'agir pour essayer d'aller mieux, les grandes lignes, en gros, c'est d'essayer de réduire son exposition et notamment de récupérer un sommeil de qualité, parce que si vous ne récupérez pas au niveau du sommeil, là, c'est très, très difficile. Donc, d'essayer au maximum, soit de se mettre un peu au vert, de pouvoir un petit peu protéger son lieu, de sa chambre, et notamment en faisant déjà le ménage chez soi, parce que souvent, quand on commence à avoir des symptômes, on n'y prend pas forcément garde. Chez soi, on peut avoir la Wi-Fi, on peut avoir le téléphone fixe de bureau. Personnellement, moi, avant de tomber malade, je ne savais pas du tout que ce machin, alors qu'il était posé sur sa base et que j'appelais pas avec, la base émet dans la plupart du temps, tout le temps. Et c'est une pollution inutile, mais qui vous pollue la tête en permanence. Donc il y a déjà un peu l'assainissement de son chez-soi. Essayer de voir aussi dans son environnement proche si ses voisins sont sympas, couper la Wi-Fi, etc. Quand ça vient de l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Se protéger des ondes extérieures, des antennes, faut déjà être sûr de ce par quoi on est pollué pour pas créer plus de problèmes. Parce que si par exemple vous pensez que c'est l'antenne qui est en face, vous vous blindez, puis en fait vous avez oublié que c'est le voisin peut-être du dessous qui a une box ou quoi, si vous vous blindez de l'extérieur, ça fait des effets de réflexion, d'enfermement un peu des ondes, et finalement vous avez peut-être plus mal que si vous aviez bien identifié quelle source vous gêne. Donc il y a moyen de demander des mesures, alors que ce soit par différentes solutions dans le domaine du privé ou par le dispositif aussi gratuit de la NFR. Ça permet d'essayer de cerner un petit peu le problème. Il y a des petits appareils aussi qui vous permettent aussi d'identifier, de comprendre ce qui se passe aussi. C'est important de comprendre ce qui se passe et puis de se protéger. Donc réduire son exposition, essayer de remonter son terrain, parce que voilà, un certain nombre de gens, quand on tombe à l'extrosensible, ils ont d'autres problèmes. Ça peut être une infection un peu chronique, latente, qu'on n'a pas très bien traitée, ou une intoxication un petit peu chronique, par exemple les amalgames dentaires, ou ce genre de problèmes. Donc déjà, essayer de remonter son organisme, de manger sain, de s'aérer aussi, d'aller marcher, de faire moins d'ordinateurs et vraiment de se dépenser. C'est des petites choses, mais qui, mises bout à bout, permettent quand même d'aller globalement mieux et de mieux en mieux. Parce que c'est ça aussi qui est important. Moi, quand je suis tombée électrosensible en 2010... Et à cette époque-là, le dossier, il faisait un peu peur. Hein. Au début, je me disais, je vais finir au fond des bois, c'est affreux. Et puis, en faisant ce qu'il faut le plus vite possible, on peut arriver à récupérer. Et puis, progressivement, c'est long, mais on peut arriver à remonter et avoir une vie proche de la normalité. Retravailler et voilà. Donc surtout, ne perdez pas espoir. Il faut faire des choses. Souvent, les personnes qui sont électrosensibles ont un organisme qui est un peu à fleur de peau, au sens où il surréagit. Donc il peut surréagir par exemple à des médicaments ou à de la détoxification. Donc faites attention à ce que vous faites. Faites des choses prenez le temps de les faire, de pas vouloir aller trop vite parce que ça peut mettre en danger votre organisme. Mais en prenant le temps, en ayant confiance, en faisant sur la durée, on peut vraiment récupérer de la qualité de vie. Voilà, je vais peut-être reprendre une série de questions.
Alors moi j'aurais une question, mais avant juste, je voudrais signaler en fait l'existence, donc on parlait de comment s'organiser, donc signaler l'existence donc sur Lyon d'une coordination Stop 5G Lyon qui s'est créée en fait courant 2019, sur la base en fait des collectifs Stop Linky et puis d'autres associations qui portaient la problématique en local de la question sanitaire. Dire que cette coordination donc, va lancer une campagne d'information. Donc on organise 4 réunions publiques d'ici juin. Donc 2 réunions publiques à Mornant le 25 mars et le 8 avril, une à la Maison de l'écologie à Lyon le 24 mars, et puis une troisième dans le quartier le plus connecté de Lyon, qui est donc le quartier Confluence. Et donc la MJC nous accueillera et ce sera tout à fait intéressant d'y apporter notre regard. En parallèle, on va s'associer avec une grande action qui va se dérouler, qui se prépare donc le 13 juin à Lyon. Donc un grand rassemblement devant le CIRC, le Centre international de la recherche contre le cancer, qui se trouve à Lyon. Donc Sophie Pelletier l'a précisé, c'est cet organisme qui est affilié à l'OMS, qui a classé potentiellement cancérogène les ondes électromagnétiques en 2011. Donc c'est un lieu stratégique et donc un grand rassemblement pour affirmer en fait une position en fait de la part de la population par rapport à ce déploiement 5G sur 3 aspects que vous avez développés, donc l'aspect sanitaire, l'aspect environnemental et l'aspect sociétal. Sachant que l'on considère que l'aspect sociétal, que la santé et l'environnement sont les conséquences d'un choix de société. Et on mettra bien en évidence le choix de société qui se pose à nous. C'est-à-dire que vous avez évoqué donc, les conséquences sur la santé, les conséquences sur l'environnement. Il y a les conséquences demain sur l'accès à l'énergie, au sens que si on développe la voiture électrique autonome, en fait, est-ce qu'on pourra avoir l'approvisionnement énergétique pour pouvoir se chauffer, s'éclairer, les besoins vitaux, alors que la voiture électrique va pomper toute l'électricité disponible. Donc ça, c'est des questions sérieuses de comment demain on va avoir accès à l'énergie. Et puis la question démocratique, dans le sens où s'installe une société de surveillance généralisée, il y a la question des caméras à reconnaissance faciale et l'utilisation de la 5G à des fins de contrôle social, de surveillance, voire même, on l'a vu pour les manifestations gilets jaunes, hein, de contrôle lorsque justement on se mobilise. Et sur le choix de société, je voulais dire aussi que en fait, on va vers une déshumanisation totale, c'est-à-dire qu'il y a l'Internet des objets, mais c'est aussi l'Internet des humains. C'est-à-dire que les reconnaissances faciales, c'est pour repérer les flux des humains et pour en stocker la traçabilité, c'est-à-dire savoir à tout moment ce qu'a fait et où était en fait un être humain. Et là, on passe dans une société totalement sécuritaire et de contrôle qui pose la question voilà, de quelle société on veut et est-ce que c'est vraiment cette société-là que l'on veut où l'on veut vivre. Et puis, il y a le coût social, puisqu'en fait, c'est la société de l'intelligence artificielle. Je vous invite à aller voir CAP 22. Donc là, en fait, c'est les projets de dématérialisation, et ça va être amplifié par la 5G, de tous les services publics. Donc remplacer, en fait, les services publics par des algorithmes. Donc là, par exemple, la justice des algorithmes. Donc là, on pourrait, dans quelques années, juger une affaire comme la 5G par des algorithmes. Il y a aussi l'automatisation du travail qui arrive à grands pas. Moi-même, dans mon travail, je suis remplacée actuellement par un algorithme. Et on est mis en concurrence puisque la machine fait mieux que l'humain. Voilà. Donc ça, c'était quand même une alerte sur dans quelle société veut-on vivre. Et au niveau de la mobilisation du 13 juin, donc il y aura ces 3 aspects. La question que je voulais vous poser, c'est un, comment on peut articuler la lutte des associations avec celle des collectifs qui se met en place. La seconde, c'est est-ce que vous avez envisagé de travailler avec l'association La Quadrature du Net, qui, elle, pourrait porter la question de la surveillance généralisée. Ils font un travail de recensement de toutes les caméras à reconnaissance faciale. Et avec des mobilisations locales, ils ont réussi à faire arrêter 2 projets d'installation de caméras à reconnaissance faciale dans 2 lycées en PACA, un à Marseille et un à Nice. Donc il me semble que peut-être travailler avec eux sur ces 3 aspects sociétals, ce serait bien. Et puis deuxièmement, pourquoi un moratoire et pourquoi pas demander directement l'arrêt des déploiements? En tout cas, nous, ce qu'on portera le 13 juin, c'est à partir du moment où c'est un choix de société, quelles limites on met et a-t-on besoin vraiment de connaître d'avoir des évaluations pour se positionner en fait et dire tout de suite on n'en veut pas de cette 5G Camelot qui va servir des intérêts en fait les intérêts industriels et qui va servir la population aux machines. Voilà, globalement c'est ça qui va se passer et on n'est pas dans la science-fiction, c'est écrit dans le rapport CAP 22. Voilà. Que demain il y ait un atelier se mobiliser contre la 5G également et puis pour se mobiliser le 13 juin vous pouvez venir au stand F302 Stop Linky.
D'autres questions?
Oui.
Pardon. Moi j'ai une question genre gilet jaune. La 5G donc demande des portables, si je comprends bien, et sûrement des box ou je ne sais trop quoi plus importantes, qui ont des capacités plus importantes.
Alors, ce qu'on sait, c'est que le matériel actuel, effectivement, n'est pas compatible avec la 5G.
Voilà.
Pour pouvoir utiliser la 5G, il faudra changer son smartphone et les box. Alors, je ne sais pas comment ça va marcher. La plupart marchent en Wi-Fi. Il y a des systèmes effectivement où certaines box font un peu mini antenne. Hein. C'est ce qu'on appelle les femtocells. Et donc effectivement demain on peut très bien imaginer. Je suppose qu'ils ont déjà imaginé des box 5G qui feront effectivement relais mini antenne d'intérieur, on va dire.
Alors, pour faire écho à ce que dit la personne précédente, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut augmenter à nouveau nos frais qui maintenant deviennent de plus en plus énormes et qui ne nous laissent pas le choix au niveau comment on vit? Ou, puisqu'il faudra racheter des portables, payer certainement des abonnements plus chers parce que ce que dépensent les opérateurs, il va bien falloir renflouer à un moment donné, ou c'est l'État qui va les aider, auquel cas, de toute façon, les contribuables que nous sommes paieront la note. Est-ce que l'on veut ça? Et je pense aussi aux personnes qui carrément n'auront pas les moyens qui augmentent, mais plutôt les moyens qui baissent. Comment feront-elles pour devenir des personnes qui pourront s'intégrer à la société?
Je vais peut-être répondre tout de suite. Donc merci pour avoir signalé vos actions. Je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire. En fait, il faut qu'ils s'en parlent parce que nous, à Priartem, on a une action nationale. On donne de l'information, on fait des analyses, on peut faire des actions nationales comme par exemple porter devant les tribunaux, mais il est évident qu'il faut que la société s'empare de ce sujet-là, qu'il s'en parle partout, que les politiques, quels qu'ils soient, sont interpellés sur ces sujets parce que ça pose effectivement plein de questions. Donc là, moi j'ai parlé des choses sur lesquelles on a réagi en premier, mais on a ouvert on a voulu vraiment ouvrir toutes ces questions et la question de l'évaluation préalable, c'est bien de se poser toutes ces questions-là, y compris celle du coût, de comment c'est financé tout ça, parce que vous avez parfaitement raison madame, il y a une vraie arnaque aussi financière derrière tout ça. C'est que déjà d'une part, oui, vous allez être obligé de changer votre matériel si vous voulez utiliser ces technologies-là, bon, les autres resteront. Donc, si vous ne voulez pas les utiliser jusqu'à un certain nombre d'années, vous pourrez toujours faire avec. Mais donc, il y a une question d'obsolescence programmée, et une question d'utilisation des ressources, une question du coût. Ça délocalise aussi la consommation énergétique chez tout un chacun, puisque l'idée c'est aussi de mailler le territoire. Les petites antennes, quand elles vont être sur les abribus ou etc., il n'est pas dit que ça soit pas la municipalité qui va payer aussi une facture électrique. Vous, votre box, si elle fait la Wi-Fi pour vos voisins ou si elle fait femtocell 5G pour vos voisins, votre quartier, c'est vous qui allez payer l'électricité. Donc il y a une espèce de délocalisation qui dit pas son nom de ces problématiques-là. Et puis, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que on a la 5G se met dans la roue de la 4G, au sens où la 4G sert un peu de cheval de Troie à plusieurs titres pour la 5G. Un, les opérateurs, il y a eu ce qu'on a appelé le New Deal mobile en début 2018. L'idée, c'était de couvrir le territoire, lutter contre la fracture numérique, des campagnes, etc. etc. Et donc, le gouvernement a renoncé à obtenir, à mettre aux enchères le renouvellement des fréquences déjà utilisées. Donc, ça représente quelques milliards, hein, en demandant gentiment aux opérateurs de bien vouloir couvrir le territoire en 4G. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et donc, effectivement, ça, c'est une question liée à l'utilisation des deniers publics, puisque c'est une recette qui ne rentre pas. Le deuxième cheval de Troie de la 4G pour la 5G, c'est qu'on a vu apparaître, ça c'est quelque chose qu'on a pu révéler, c'est que aujourd'hui les opérateurs, quand ils déposent un dossier en mairie, ils sont obligés aujourd'hui de déposer des dossiers en mairie quand ils vont installer un nouveau site. Eh bien, ce qu'ils font, c'est que dans ce dossier-là qui concerne la 4G, ils mettent assez discrètement des antennes. Alors, parfois, ils les appellent factices, antennes leurre, antennes 2.0, antennes inactives. Et donc, on s'est inquiété de ça et on a posé la question de savoir, mais est-ce que ça ne serait pas pour la 5G? Et donc, effectivement, on nous a répondu que oui, c'est pour la future 5G. En fait, c'est un moyen pour eux d'accélérer les procédures d'urbanisme pour les antennes, une fois qu'ils auront l'attribution des fréquences, pouvoir développer extrêmement rapidement, faire émettre les antennes qui auront, dont la procédure en fait en termes d'urbanisme aura déjà été faite. Donc ça, voilà, une des actions que vous pouvez aussi faire au niveau local, c'est de vous inquiéter auprès de vos communes de ces dossiers d'information au maire, de voir s'ils sont faits correctement, de voir effectivement s'il y a des antennes de ce type inactifs, etc. Le signaler en mairie et de demander aux élus de refuser. De s'opposer au dossier de l'antenne. Ça, voilà, c'est des choses qui peuvent être faites. Après, sur la question de l'articulation, je pense qu'on en reparlera plutôt au niveau de l'atelier. Je pense que ça sera une configuration plus facile pour discuter de ça.
Je voulais savoir si... je pense qu'il y a toujours la 2G, la 3G, la 4G qui tournent actuellement. Est-ce que vous avez des données sur la consommation de ces générations de téléphonie? Et puis une information pour lutter contre l'obsolescence programmée, c'est E.Foundation en anglais. C'est une entreprise normande qui propose des alternatives d'installer des nouveaux systèmes sur votre téléphone pour les rendre de nouveau fonctionnels.
On est en train de nous vendre un changement de l'avenue des Champs-Élysées pour la ramener à son état d'origine, qui était une énorme voie verte. Donc il y a un très beau projet par des architectes qui est sorti et qui est proposé, avec des petits massifs de partout et de nouveau une grosse replantation avec des gros arbres. On sait que ces antennes pour la 5G doivent globalement se situer à peu près, vous me corrigerez quand même si je dis une erreur, entre le premier et le maxi deuxième étage pour avoir ces fonctions. Il y a déjà des essais et on se rend compte que ça ne fonctionne pas à cause des arbres et de la végétation. Donc on est en train de la couper. Quelle cohérence entre redonner du vert et du cadre de vie dans nos villes et dépenser de l'argent, alors qu'on va aussi en dépenser pour déployer la 5G et qu'on rasera ces projets qu'on vient qui seront mis récemment en place.
Oui, bonjour. Merci Sophie d'être là et pour Priartem pour ce qu'ils font. Une petite question à propos des personnes électro-hypersensibles. Donc il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, 5% de la population, il semblerait qu'il y en ait davantage demain, notamment avec la pose des Linky et la forte appétence pour la population des objets connectés. Ma question est très simple. Quels recours judiciaires ont actuellement les personnes électro-hypersensibles lorsqu'ils vivent déjà dans une zone dite à rayonnement très limité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'onde? Quels recours ont-ils devant la justice lorsque un voisin qui n'aime pas particulièrement les EHS, comme certains peuvent le dire, la chasse aux loups et aux EHS est ouverte. Donc quels recours ont les EHS pour simplement être restaurés dans leurs droits quand on tente de les chasser avec un femtocell, avec une Wi-Fi, avec un DECT? Merci.
Oui, moi je vais juste compléter ce qu'a dit la personne avant sur les arbres. La métropole lyonnaise a fait abattre 1000 arbres dans la forêt, dans le bois de Paris pour faire passer la 5G. On a prétendu que les arbres étaient malades. Un millier d'arbres ont été abattus pour faire passer donc Saint-Priest, puisque ça dessert la zone de Saint-Priest.
Oui, je vais répondre. Alors, sur la consommation énergétique du herdien, on va dire, d'une manière générale, de la téléphonie mobile herdienne, on a l'ARCEP, donc le régulateur, qui a fait des réflexions récemment, qui s'appelle le réseau du futur, et ils ont établi un petit peu des chiffres, hein, sur pour comparer les différentes façons de faire, et entre le herdien et la fibre, on a un facteur 10, c'est-à-dire que le herdien consomme 10 fois plus que la fibre. Sur la 5G, on a également des projections, je crois que c'est le Shift Project qui évalue à plus de 2% la consommation électrique qui serait liée à la 5G. Et en gros, ça correspond à une centrale comme Fessenheim. Voilà, donc on ferme Fessenheim. On fait la 5G. Sur la végétation, moi j'ai pas d'informations particulières là-dessus. Je pense que c'est, enfin, comme la 5G, ça va être une combinaison de toutes ces antennes, comme je vous ai dit. Il y aura des macro-antennes à l'ancienne, donc sur les toits. La problématique, ça va être surtout pour les riverains qui sont notamment en visu en face, qui seront particulièrement exposés, plus effectivement ces réseaux de petites antennes, donc dites millimétriques, où là effectivement, comme je vous disais, la portée est beaucoup plus courte. Qui a une problématique en lien avec la végétation. Moi, je n'ai pas d'informations montrant qu'il y a un abattage lié à ça. Après, peut-être que c'est le cas, mais personnellement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc, j'aurais des difficultés pour vous répondre là-dessus. Enfin, en même temps, ces petites antennes, si elles sont positionnées sur les abribus, etc., ça sera en dessous. Enfin, donc, bon, voilà, je note bien la question, mais personnellement, je n'ai pas d'informations là-dessus. Enfin bon, je note la question parce qu'on pourra toujours la poser, hein, ou en tout cas creuser cette question. Sur la problématique des EHS, donc, au niveau judiciaire, on a eu un certain nombre d'avancées, alors qu'il ne répond pas à la question très directement. Hein. On a des électrosensibles qui ont eu une reconnaissance en maladie professionnelle et un autre en accident du travail, donc en fin 2018 et début 2019. Sur le cas du voisinage, je dirais que une fois qu'on a usé de la persuasion, parce que dans les problèmes de voisinage, c'est toujours très délicat. Hein, on reste avec son voisin pour longtemps s'il ne veut pas partir ou si on ne part pas. Par contre, il y a une procédure qui s'appelle le trouble anormal de voisinage. Mais encore faut-il pouvoir documenter le dossier, quoi, pour engager une procédure dans cette voie-là. Je vois pas d'autres possibilités comme ça tout de suite, mais c'est celle qui me vient à l'esprit. Merci beaucoup.